Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de la Saint-Joseph laisse aux célébrants le choix entre deux évangiles à proclamer, celui de l'Annonciation à Joseph, qu'on entend souvent au temps de l'Avent, et puis celui du recouvrement de Jésus au Temple. C'est ce récit que je voudrais commenter en essayant de nous mettre vraiment à la place de Joseph et de Marie, qui sont indissociables dans cette épreuve qu'ils traversent ensemble pendant près de 3 jours. D'abord, je voudrais souligner le fait que Marie, en son Immaculée Conception, et Saint Joseph, en sa sainteté exceptionnelle, atteignent une perfection assurément singulière. Néanmoins, ce récit nous apprend que la perfection, qui est donc de ce monde, à travers la vie des saints, cette perfection, elle ne rend pas infaillible, incapable de commettre des erreurs, et ici de vivre des épreuves dont on est soi-même la cause. Au vu des circonstances précisées par l'Évangile, le fait d'avoir égaré Jésus est bien compréhensible. Mais cela demeure objectivement une erreur, comme les meilleurs parents peuvent en commettre, mais certainement pas un péché. La responsabilité de Joseph et de Marie est ici objectivement engagée, même si Jésus lui-même, dans sa réponse étonnante, s'empresse de la prendre sur lui, cette responsabilité, ou plus exactement d'accorder la paternité de l'événement au Père des cieux. Mais commençons par regarder quelques éléments concrets du récit rapporté par l'évangéliste Saint-Luc. D'après celui-ci, ce pèlerinage est une tradition annuelle accomplie à l'occasion de Pâques, comme le font les Juifs fidèles. On peut donc aisément concevoir que d'année en année, le petit Jésus, qu'on imagine dans la perfection de son humanité assez dégourdi, voire en avance sur son âge, ce petit Jésus prend de l'indépendance. Il retrouve les cousins, les amis, il va et il vient. Et quand on est fils unique, on ne manque pas de saisir les occasions de sociabilité qui se présentent, notamment en ces rassemblements familiaux religieux. On peut même supposer que le jeune Jésus attendait chaque année avec une certaine impatience ce rendez-vous festif à plus d'un titre, et chaque année ça se passait très bien. Si bien que plus d'une fois, Joseph et Marie le laissèrent remonter à Nazareth avec ceux qu'on appelle volontiers, selon les coutumes orientales, frères et sœurs, c'est-à-dire les coreligionnaires, les cousins. Et cette année-là, fort de ces expériences heureuses et rassurantes, on fait donc comme d'habitude. Et on doit se retrouver au bivouac pour le dîner du premier soir du retour, comme l'an dernier, et c'est là qu'on s'aperçoit de l'absence du petit. Je dis petit, mais 12 ans, en ce temps-là, c'est presque l'âge d'homme. On quitte alors bien vite l'enfance pour rejoindre le monde des adultes, qui est celui du travail. La vie est courte. À 12 ans, on est déjà très avancé dans la vie. Songez que Jésus a déjà vécu plus d'un tiers de son existence. Bref, le poids des habitudes et l'âge raisonnable du petit Yeshua font que Joseph et Marie peuvent être confiants. Et c'est cette assurance qui les conduit à une erreur d'appréciation. Ils croyaient Jésus avec eux alors qu'il ne l'était pas. Je le répète, l'Évangile n'est pas un conte de fées, et ici la sainteté ne rend pas omniscient et infaillible. Maintenant, observons, admirons l'attitude de Joseph et de Marie. Constatant l'absence de Jésus, que font-ils? Non seulement ils se mettent à chercher Jésus, mais ils le recherchent dans une direction qui n'est pas neutre. Ils retournent vers Jérusalem. Vous me direz, c'est logique puisqu'ils en viennent, mais assurément, mais ce n'est pas parce que c'est logique et rationnel que ce n'est pas symbolique. Jérusalem, c'est la cité sainte, là où Dieu nous fixe rendez-vous. Et dans Jérusalem, ils ne trouvent pas Jésus dans un magasin ou au patro. Il est à l'église, je veux dire au temple, autrement dit au cœur du cœur. Et avant de voir ce que cette attitude a d'inspirant pour chacun d'entre nous, je voudrais m'attarder quand même sur la situation spirituelle de Joseph et de Marie quand ils prennent conscience qu'ils ont perdu Jésus, et éclairer cette situation à l'aide d'une parole mystérieuse de Jésus. Il me semble qu'elle éclaire cette scène qui laisse place à l'inquiétude, voire à l'angoisse. C'est une parole rapportée avec la même précision par Matthieu, Marc et Luc, après qu'ils ont souligné la malveillance avec laquelle est jugé Jésus lorsqu'il se laisse recevoir à la table des pécheurs, ce qui contraste avec l'ascèse héroïque de son cousin, le Baptiste. Pardon. À ce moment-là, Jésus leur dit « Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours et quand l'époux leur a été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » L'époux dont parle Jésus le désigne lui-même, désigne le Messie, époux de l'humanité sauvée, époux de chacune de nos âmes quand elle se laisse sauver. Mais que signifie se voir privé d'époux, se voir privé de Jésus, se faire enlever son époux? À mon avis, il y a deux significations qui sont également valables. D'abord, Jésus est vivant dans l'âme du fidèle baptisé en état de grâce, notamment lorsqu'il reçoit l'absolution des péchés par le sacrement du pardon pour retrouver sa fraîcheur baptismale. L'époux est soustrait dans ce qu'on appelle l'état de disgrâce par le péché mortel qui n'a pas encore été effacé par le pardon au moyen du sacrement. Et à ce moment-là, on peut dire que l'époux est enlevé de notre âme. C'est une des sept significations, des sept motivations du jeûne chrétien, ainsi que j'ai expliqué lors du premier dimanche en carême pour ceux qui suivent. Faire pénitence alors à cause de son péché, afin de creuser son désir de retrouver le Seigneur. À ce moment-là, on jeûne. Ils jeûneront. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Quand le ventre se lamente et crie famine, ça fait du bruit à la porte du tabernacle. Dans ce cas-là, on jeûne d'Eucharistie par humilité, par pénitence. On s'en prive soi-même en conscience afin d'éviter une communion sacrilège, afin de commettre un vol, quand la communion devrait être la réception d'un don. Vous me direz, on n'est jamais digne de communier. C'est vrai, mais justement, le sacrement du pardon donne au sang du Christ de nous laver de cette indignité pour recevoir son corps, de pouvoir communier le moins indignement possible. Ça, c'est la première signification de cette parole mystérieuse de Jésus. Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Eh bien, la deuxième signification est très différente de celle que je viens d'expliquer, et elle concerne ici, il me semble, Joseph et Marie, dans ce temps d'angoisse. Celui qui mérite le titre d'époux et qui le revendiquera à juste titre dans son âge d'homme, est pour l'heure un enfant, leur enfant. Et cet enfant, il leur a été enlevé. Il leur est soustrait par les circonstances, sa volonté propre accordée à celle du Père. Les saints et tout chrétien en état de grâce peuvent connaître cette mystérieuse privation. Sans cesser de communier avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité, dans la grâce avec Jésus, un chrétien peut se sentir privé de sa présence tangible, pour ne pas dire sensible. Par exemple, le sacrement de l'Eucharistie, sacramentellement reçu, nous aide à rencontrer Jésus réellement. Et l'économie sacramentelle, elle passe par les signes. On voit le corps du Christ, on mange le corps du Christ. Et devoir s'éloigner de cette communion sacramentelle, c'est une souffrance. Mais elle n'empêche pas, comme je vous l'expliquais dimanche dernier, et selon la tradition chrétienne la plus établie, d'accomplir une communion de désir, où qu'on soit, et même depuis chez soi. Et il me semble justement ici que Joseph et Marie font cette expérience de privation déstabilisante dont tant de saints ont souffert par la suite. Pensons à un des exemples les plus connus et récents, qui est sainte Thérèse de, de Calcutta, qui a fait cette expérience de nuit de la foi, de ne plus sentir Jésus tout près de soi. Et leur attitude, hein, Joseph et Marie, nous enseigne alors, puisque il peut nous sembler avoir l'impression parfois de perdre Jésus sans que le péché en soit la cause, leur attitude nous enseigne, comme cette épreuve du confinement nécessaire et imposé peut nous faire éprouver quelque chose qui ressemble à cette soustraction désagréable. L'exigence du jeûne de l'Eucharistie, sacramentellement reçu, qui est imposé par les circonstances aujourd'hui, et peut-être pour nous l'occasion de rejoindre Joseph et Marie dans leur épreuve de jeunes parents, épreuve que Notre-Dame revivra au plus haut point au pied de la croix, lorsque l'enfant, le fils, le maître, l'époux, lui sera à nouveau enlevé pendant 3 jours. Privé de la présence presque sensible de Jésus, de cette présence réelle eucharistique que nous pouvons tout de même rejoindre en esprit, nous pouvons dire au Seigneur notre désir de le recouvrer bientôt. Tout en prenant spirituellement la direction de Jérusalem, c'est-à-dire en ayant pour boussole la parole de Dieu et pour cap son Église, voilà l'occasion de nous plonger dans son enseignement, de rejoindre son intercession, l'intercession de l'Église, de participer à son action en prenant soin les uns des autres par téléphone ou que sais-je. La toile numérique qui peut représenter un véritable filet diabolique peut devenir le support d'une magnifique communion des saints, l'occasion de témoigner, de manifester la révélation divine, d'exercer la charité. En jeûnant d'Eucharistie, nous reprenons conscience de l'immense grâce qu'elle représente, qu'elle représente habituellement pour nous, et se creuse en nous le désir du recouvrement de Jésus au temple, c'est-à-dire notre temple, l'église paroissiale, dans quelque temps. Enfin, chers amis, accueillons dans la foi, et pour finir, la réponse magistrale de ce jeune homme déjà à l'œuvre que nous admirons, Jésus, du haut de ses 12 ans. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il faut être chez mon Père? Cette réponse, elle nous assure que tout ce qui advient, y compris ce que Dieu ne veut pas nécessairement, mais qu'il permet, tout cela ne se fait pas sans son consentement, ou plus exactement sans que cela puisse concourir à hâter l'avènement du règne du Fils. Saint Luc précise que cette réponse ne fut pas comprise immédiatement par Joseph et par Marie, c'est-à-dire par deux âmes saintes pleinement illuminées par la foi, ce qui nous permet encore d'aborder la sainteté de façon réaliste. On imagine que cette parole dut résonner dans leur cœur pendant plusieurs années, mais on la voit s'accomplir au plus haut point dans la passion, la mort et la résurrection de Jésus, où le Fils est aux affaires du Père, accomplit le dessein miséricordieux du Père de façon très mystérieuse. Dieu sait ce qu'il permet. Vivre en disciple de Jésus, c'est justement faire allégeance en tout temps, et pas seulement après coup, en voyant éventuellement parce qu'après coup, on voit les effets collatéraux vertueux de telle ou telle épreuve, comme celle du confinement, mais vivre en disciple, c'est faire allégeance en tout temps, avant et pendant, pas seulement après, immédiatement, avec la promptitude confiante de Saint Joseph. Dire « Oui, Jésus, Fils éternel, tu es toujours à l'œuvre avec ton Père, l'Esprit et tous les saints du ciel. Et là où je suis, là où je reste, là où je me tiens, je veux et je peux œuvrer à mon échelle, humblement mais sûrement, du fond de mon petit Nazareth, où je suis confiné jusqu'à nouvel ordre. Si une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui se laisse purifier guérit le monde, une âme qui obéit dans la foi illumine le monde, une âme qui s'embrasse de charité réchauffe le monde. Il nous faut être avec Jésus, Marie et Joseph, à pied d'œuvre, chez notre Père, et dans l'immédiat, être chez lui, c'est-à-dire chez nous, comme au cœur du monde. Amen.